Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est l'heure de l'entretien littéraire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la romancière Nathalie Desmoulins pour son roman Cartographie d'un feu qui paraît aux éditions de Noël. Bonjour Nathalie Desmoulins.
Bonjour.
Vous avez publié 4 romans avant Cartographie d'un feu, parmi lesquels La Grande Bleue en 2012, qui vous valut le grand prix de la ville de Saint-Étienne, et en 2015, Bâtisseur d'oubli, qui s'intéressait à la bétonisation et à l'architecture de la côte méditerranéenne, et maintenant Cartographie d'un feu, changement de décor. Nous quittons la Méditerranée pour le Jura, Nathalie Desmoulins. Commençons peut-être par la cartographie avant le feu. Où nous trouvons-nous au début du roman ? Quels sont les paysages de Cartographie d'un feu ?
Alors nous nous trouvons dans un paysage assez typique du Jura, qui est une cluse, donc une vallée avec un anticlinal, donc avec des formes métamorphiques, une espèce de mémoire rocheuse au-dessus d'une ville qui s'appelle Cuisance, qui est donc une ville fictive. Et cette ville, elle est installée au fond de cette vallée. Elle est traversée par une rivière assez sauvage qui draine avec elle des galets, des roches, une énergie assez éruptive. Et depuis 24 heures, il y a un incendie autour de cette ville. Mais je précise qu'on est au mois de février, qu'il y a de la neige, qu'on n'arrive pas à atteindre cet incendie et qu'on n'arrive surtout pas à comprendre comment il a pu se déclencher.
Oui, on va y venir à cet incendie, mais j'aimerais qu'on voit bien justement le paysage de montagne, parce que c'est un des enjeux du texte. Une cartographie, ça veut dire aussi une description, une mise à plat un peu des choses, non ? En tout cas, c'est sûrement comme ça que vous l'avez
complètement
pensé.
Complètement. En fait, d'abord, je suis une voyageuse de cartes. J'adore regarder des cartes. Et je trouve que quand on regarde une carte du Jura, particulièrement, ce qui est très beau, c'est la toponymie. Il y a une richesse au niveau des noms des lieux qui évoque beaucoup de choses. La Bible, Messia, Siam. Il y a des noms comme ça qui sont extrêmement puissants. Cuisance, en réalité, c'est une rivière. Mais Cuisance, c'est aussi un nom commun qui est sorti de la langue, peut-être au XVIIe siècle, je suis plus sûre, qui veut dire une vieille douleur qui nous cuit, qui nous pétrit, qui nous façonne. Et ce mot-là me plaît beaucoup. Cette rivière, je la traverse régulièrement. Et j'aimais bien l'alliance des deux. Et bon, donc j'ai déplacé, en fait, dans un endroit imaginaire, une carte un peu idéale du Jura, dans laquelle il y aurait le lac de Chalin, qui devient le lac de Messia, dans lequel il y aurait des cluses, des rivières, un peu comme l'Ain.
Et Nathalie Desmoulins, l'importance de ces noms, ça va un peu déteindre aussi sur les personnages, parce que eux aussi portent des noms, des prénoms un peu, pas symboliques, mais en tout cas qui ont à voir les uns avec les autres, qui fabriquent aussi une autre cartographie, une espèce de toponymie, un peu de la position des personnages d'après leur nom, et notamment le narrateur, un des frères Sangor, Jason Sangor, qui, à cause de cet incendie, justement, vient de se réinstaller, être obligé de se réinstaller chez ses parents, avec sa femme Carole, plus haut dans la montagne. Si là, pour le coup, on peut pas mettre à plat cette cartographie, suivre des courbes de niveau pour remonter au-delà de l'incendie, qui commence finalement un peu, d'une façon très surprenante, en plein hiver, à dévorer la ville.
Oui, il est au-dessus de la ville. En fait, c'est une menace parce que donc cette cluse, elle est non très abrupte, mais elle est entourée de forêts et le feu peut descendre et s'il descend, il dévore la ville. Et ce feu est une présence à la fois inquiétante et puis en même temps, c'est un feu qui provoque toutes sortes d'événements. C'est un feu démiurgique, c'est un feu qui crée des situations nouvelles, inédites, problématiques pour le narrateur qui s'appelle donc effectivement Jason. Et lui, qui est obligé à cause du feu, qui peut plus rentrer dans sa maison, sur un massif qui s'appelle Furieuse, et qui est obligé de retourner dans la maison d'enfance, et du coup aussi de reprendre d'une certaine manière cette position d'enfant qu'il a d'ailleurs jamais vraiment quittée et qui le fait terriblement souffrir.
Et notamment, ce qui est assez fou, c'est que le roman ressemble à la montagne elle-même, c'est que tout est près et tout est loin. C'est-à-dire que le chemin que va parcourir donc Jason dans le roman est finalement assez court, c'est quelques kilomètres, mais c'est aussi un chemin dans le passé, mais un chemin difficile en même temps. Donc c'est en même temps tout près, mais il y a quand même une pente, il faut traverser des incendies. Enfin, on a l'impression qu'il y a une forme de difficulté qui naît de ce paysage. Tout devient un peu abrupt. Tout devient empêché, soit par l'incendie, soit par la roche elle-même, soit par la distance avec le passé et le traumatisme, le feu qui était là, en fait, déjà, sous la neige.
Oui, c'est un paysage qui demande de la force, qui demande effectivement de la puissance, qui demande de l'effort. Mais c'est vrai que c'est aussi un paysage qui est plein de plis et de replis, qui se replie un peu comme un origami et qui, en effet, correspond à des strates de temps. Et en réalité, à chaque fois que le personnage Jason parcourt ce chemin qui mène de Cuisance à Messia, il passe par un tunnel. Ensuite, il doit descendre vers un lac, le fameux lac de Messia. Et en effet, c'est un parcours qui est non seulement un parcours à l'intérieur d'une géographie et d'une cartographie, mais qui est un parcours à l'intérieur du temps, à l'intérieur des souvenirs, à l'intérieur de certains chagrins. Et ça crée des points de contact, en fait, avec des zones qui sont oubliées et qui sont même perdues dans la mémoire. Et cet incendie, en fait, la puissance qu'il a, c'est justement de réveiller les fantômes, de les rendre présents. Et il va y avoir plusieurs éléments dans le texte qui vont être comme ça porteurs, qui vont porter ce personnage de plus en plus loin dans la mémoire de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a parfois cru vivre. Donc, il se demande parfois s'il l'a oublié ou s'il l'a rêvé. Et il y a aussi une frontière de plus en plus ténue, plus on avance dans le texte, entre ce rêve et une réalité ou des réalités possibles.
Alors Nathalie Desmoulins, à quel moment est-ce que ça vous est apparu, cet incendie dans la neige? Est-ce que c'est quelque chose qui a existé? J'ai cherché un peu, j'ai pas cherché beaucoup, mais j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé d'exemple comme ça d'un incendie ou d'un feu de forêt en plein hiver.
En fait, l'incendie qu'on m'a raconté, qui a eu lieu à Saint-Claude, c'est une de mes amies qui travaillait à ce moment-là là-bas. C'était un incendie de demi-saison, pas du tout un incendie en hiver. Mais moi, quand mon amie m'a raconté ça, je l'ai tout de suite vu en hiver. J'ai tout de suite imaginé, j'avais envie de ce côté irréel, j'avais envie de cette fantasmagorie. Et la première écriture de ce texte, elle remonte à 2016. En réalité, depuis, ce qui s'est passé, c'est que quand même des forêts boréales ont brûlé, beaucoup, l'année dernière notamment. Forêt boréale, ça veut dire des forêts sur du permafrost, et même s'il n'y avait pas de neige, il y avait un grand froid. Et donc, je me suis pas inspirée d'un élément réel, et en même temps, j'ai l'impression que le texte, il a été rattrapé là depuis le début de l'écriture, enfin depuis l'installation de ces scènes, qu'il a été rattrapé par la réalité, par une réalité qui est celle du changement climatique, qui nous confronte à des choses qui sont inimaginables, incompréhensibles et insupportables.
Et on a même l'impression, enfin, qu'il y a une forme de réalisme qui s'installe. C'est-à-dire qu'on tire toutes les conséquences de cet incendie. C'est-à-dire que pour le lecteur, l'incendie devient très réel. Et même pour le personnage, pour Jason, ce qui l'inquiète, c'est son usine. Ce qui l'inquiète, c'est de voir si les flammes ne vont pas atteindre son moyen d'existence, qui est cette usine à laquelle il a consacré sa vie. Donc l'incendie devient quand même une des conditions un peu de la tension du texte.
En fait, le texte dure tout le temps de l'incendie. Donc c'est un incendie qui est très long, qui dure 4-5 jours, et tout est défini par cet incendie. Dès lors qu'il s'éteint, le texte va s'arrêter, les personnages vont connaître le dénouement qui est le leur, je ne vais pas en dire plus. Mais effectivement, tout est conditionné par l'incendie, parce que l'incendie, en fait, c'est sans doute l'intention narrative qui est née vraiment. C'était la première image du texte réellement, les premières lignes qui sont là dans le texte. C'est les premières lignes qui ont été écrites, et bon, évidemment, par la suite des pages, les choses changent beaucoup, mais ces premières lignes, elles étaient là dès le départ, et ce dispositif entre l'incendie et le lac, alors le lac, par contre, je ne l'avais pas vu venir, si je puis dire, et le lac, il a pris dans l'écriture une importance que je n'avais pas soupçonnée, mais l'incendie, vraiment ce feu et ce cercle aussi, parce que moi j'ai lu la Divine Comédie très tard, je l'ai lu au début des années 2010, et sans doute il y avait aussi toutes ces images de cercles, de feu, de poussière de feu qui traversent ce poème, qui était là encore, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont des cercles dans ce livre. Donc l'incendie, c'est un anneau, le lac, il est circulaire. Il y a aussi tous les anneaux de la mer qui était une championne.
Enfin, on va y venir.
Voilà. Mais en tout cas, il y a tout un dispositif autour des cercles, des anneaux. Mais ça vient sans doute de cette lecture de la Divine Comédie, de ces images.
Mais justement, à la fin de la Divine Comédie, en fait, le dernier, le fond du fond de l'enfer, il est gelé. Parce que la demeure de Satan est dans le gel. Et donc j'ai imaginé ce contact justement entre le feu et la glace venait justement du fond de la
Destruction. Eh bien ça vient. Vous voyez, ça je l'avais oublié, mais sans doute que c'est... Voilà, effectivement, à quel point cette lecture a agi sur moi, sans doute en levant ces images, et j'ai même oublié qu'elles pouvaient venir de là.
Alors, on vient d'évoquer Jason. Jason a une femme, Carole, avec laquelle il vient donc de se réinstaller, d'être obligé de quitter sa maison sur Furieuse pour retrouver celle de ses parents temporairement le temps de l'incendie, enfin, celle de son père très précisément, puisque sa mère n'est plus là. Et il a un frère, Jonas, qui est son anagramme et aussi quelque chose, pas un reflet de lui-même, parce que j'ai l'impression que le roman, le récit se construit aussi par reflets, par opposés qui n'en sont pas vraiment, qui sont complémentaires ou transformations un peu, des noms encore une fois. Et donc ce Jonas, qui est une forme de folie sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, est là, un peu comme un autre personnage, un double de lui-même, qui ne l'inquiète pas vraiment, mais qui quand même inquiète un peu le lecteur quand on découvre Jonas et ce qui reste un peu de cette famille en lambeaux, là dans la montagne au bord du lac.
Alors Jonas, oui, c'est la version un peu poétique. C'est le frère poétique, en fait. Il a un rapport poétique à l'espace, à la nature. Jason, c'est un entrepreneur. Il est au terme d'une lignée d'industriels dans ces pays du nord-est de la France où il y a eu beaucoup d'industries. Et lui, il a un rapport plus prédateur au paysage, à la montagne. C'est quelqu'un qui cherche des ressources. Alors que le frère, Jonas, c'est un poète. Il installe des choses dans la montagne, des pierres, des tombes. Il installe d'ailleurs beaucoup de tombes. Mais en tout cas, ce frère, il représente une part beaucoup plus magique, un rapport peut-être plus chamanique aussi au pays. Et entre les deux, en tout cas entre Jason et Jonas, il y a vraiment un rapport de rivalité. Enfin, c'est le frère ennemi. Et surtout, c'est le frère dont il a une peur terrible de devoir s'occuper. Parce que en réalité, ce Jason, plus on avance dans le livre, plus il se demande ce qu'il va devoir prendre en charge. Quelle dette va lui tomber dessus ? La dette familiale, la dette collective aussi, de l'argent qui a été trop dépensé, du climat qui a été abîmé. Mais une des choses vraiment qu'il redoute le plus, c'est de devoir s'occuper de son petit frère, qui est donc un garçon dont on ne sait pas très bien s'il a des troubles mentaux. Il dit que c'est un dobo, et dans le vocabulaire du nord-est de la France, un dobo c'est un idiot gentil. Mais lui, il a peur de devoir s'occuper de ce frère, et puis il est extrêmement jaloux parce que sa femme, Carole, qui est une historienne de l'art, elle trouve beaucoup de qualités à Jonas. Et elle aime beaucoup ce qu'il fait. On pourrait dire qu'il fait du land art à sa manière. Voilà.
Oui, d'ailleurs, sa première œuvre, pour ainsi dire, c'est de prendre des objets sur les tombes du cimetière pour reconstruire des ouvrages funéraires. Oui, des œuvres d'art, on peut dire, au bord de son lac.
Oui, en fait, il a un rapport très particulier à ce monde puisqu'en fait, il installe des tombes. Alors, sont-elles adressées, sont-elles occupées, entre guillemets, par des créatures ou sont-elles juste des intentions? Mais donc, lui, il installe des tombes, il fait des pierres levées. Enfin, il a quand même un rapport au sacré aussi, à travers son rapport au territoire, que n'a pas du tout Jason. Jason, c'est quelqu'un qui essaie d'objectiver, c'est un scientifique. Ou en tout cas, c'est un industriel. C'est-à-dire qu'il a un rapport objectif au territoire où il essaie de localiser, de quantifier, de capitaliser sur des ressources naturelles.
Même si dans leur jeunesse, les deux ont eu une enfance sportive, tous deux ont été dans la lignée de leur mère des champions de combiné nordique, et donc ils étaient un peu des jumeaux.
Complètement.
De ce côté-là.
Des jumeaux dressés par leur mère qui, elle, n'a pas réussi à monter sur un podium et qui voulait que ses deux fils soient des grands champions. et qui est terrible avec eux. Enfin, quand ils racontent ses souvenirs d'enfance, ce sont des souvenirs avec une mère impitoyable, exigeante, qui entraîne ses enfants d'une manière... Oui, c'est du dressage. Et il y a une énorme pression qui retombe plutôt sur Jason, parce que Jonas, il échappe à tout. Il arrive avec ses rêves et avec son inadaptation au monde. Finalement, il s'en sort. Alors que Jason, lui, il a une pression permanente. Il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit un champion. Et il faut qu'il assume tous les rêves qu'on lui a mis sur le dos, mais aussi tous les héritages qui sont les siens. Le rapport à l'héritage dans ce livre, il est assez terrible.
Ce qu'il faut dire, que la mère est morte après avoir été longtemps absente, internée. Donc il y a aussi cette part-là qui est une forme de culpabilité de cette disparition de la mère. Et qu'est-ce qu'on hérite quand elle n'est pas là ?
Ben c'est surtout que dès qu'elle meurt, lui, Jason, il a un accident de voiture tellement grave que jamais il pourra devenir un champion. Et en fait, il pulvérise le désir de sa mère. Donc il a pulvérisé ce désir, mais il a fallu qu'elle meure pour qu'il y parvienne. En revanche, il n'a jamais pulvérisé le désir de son père. Et en fait, en revenant dans cette maison, il est repris dans à la fois le magnétisme de son père, qui est un homme très puissant, très charismatique, qui est aussi à sa manière extrêmement exigeant. Et il est repris dans des désirs et aussi dans son incapacité à protester, à se rebeller. C'est un homme très empêché, c'est un homme qui ne s'est jamais révolté. On peut dire qu'il est fixé en deçà de l'adolescence, ce Jason. Il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à traverser. Et donc, en retournant dans la maison, dans les faisceaux de la famille, il est repris dans des exigences qui le travaillent depuis toujours et qui, là, menacent vraiment de le submerger. Donc, il est complètement désespéré, en réalité, pendant tout le livre, et de plus en plus, parce qu'il est pris dans une toile, dans les raies de ses désirs familiaux et de ses projets qu'on a eus pour lui, qu'il n'a eu de cesse d'ailleurs de remplir. Et voilà, c'est un personnage qui est très, très empêché et qui est complètement captif.
Nathalie Desmoulins, dans Cartographie d'un feu, il y a aussi un rapport très important à la peinture et à l'image. Notamment, le père dont on vient de parler se met à la peinture, il peint des animaux. Carole, qui est un peu celle qui... la critique d'art, celle qui commente, qui collectionne les peintures, qui a un rapport tout à fait professionnel à l'art, et elle aussi spécialiste donc de ces représentations-là. Et puis on croise aussi une installation, on peut la regarder, pas vraiment la parcourir malheureusement par internet, de Susanna Fritscher, artiste autrichienne, qui s'appelle Weiße Reise, donc la promenade blanche en français, qui date de 2014 et qui est justement... une espèce d'impossibilité de se promener dans un paysage fait de glace. Donc je suppose que vous l'avez parcouru.
Oui, elle était présentée au FRAC de Besançon, qui est un FRAC où je vais souvent. Il y a vraiment une très très belle programmation. Et c'était une très belle installation avec des sortes de voiles, de tentures opaques, blanches. Et on circulait à travers ça. Et effectivement, à la fois comme des obstacles, mais c'est en même temps quelque chose que le regard peut traverser. Et c'est vrai que, en voyant cette installation, enfin, en la parcourant, en la traversant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on finalement, on entre dans l'œuvre. Ça avait beaucoup de résonance avec ce que j'écrivais, puisque, il y a la neige, il y a la glace, il y a les surfaces, la surface du lac, les surfaces des tableaux, tout ce qui arrête l'œil, mais aussi tout ce que l'œil peut traverser. Et c'est vrai que dans ce texte, je pense que la question du regard, regarder au-delà ou rester à la surface, elle est très importante. Il y a aussi ce nuage qui traverse à la fin. Il y a des choses que le regard peut traverser. Il y a des choses que le corps peut traverser plus facilement que le regard. C'est vraiment cette question de l'œil, notre œil, qui est quand même un organe extrêmement important, mais qui est aussi... quelque chose par lequel on peut être trompé, par lequel on peut être informé. Enfin, il y a tellement de jeux dans ce livre sur les faux-semblants, les apparences, des réalités qui se révèlent progressivement. des choses que le personnage ne voit que par rebond. Par exemple, quand quelqu'un disparaît, ce sont les animaux qui meurent. Donc, on ne voit pas les choses directement. On ne peut les voir que par rebond, par des phénomènes tiers. Et le livre, il est vraiment sur ces prises de position du regard qui ne peut pas affronter certaines choses d'une manière frontale. On va dire, c'est un peu comme l'histoire de Méduse. Et qui ne peut que les voir de biais par des systèmes de rebonds ou de reflets. Et le livre, il fonctionne vraiment comme ça. Et l'installation, elle était aussi comme ça. Il y avait cette idée qu'on ne peut faire les choses, on ne peut pas aller droit devant, il faut contourner.
Mais surtout parce que c'est Jason qui nous raconte l'histoire. Et donc forcément, lui, Jason, c'est plutôt la Terre, pour le dire presque astrologiquement parlant. Et donc, bien sûr, il faut un peu passer au-delà de ce que nous raconte directement Jason pour apercevoir ce qui se joue derrière. Et notamment la façon dont Carole voit Jonas, dont elle perçoit son père, son propre rapport à la peinture. Et ce que, en arrière-plan, toutes ces peintures mythologiques qu'elle évoque, tous ces sujets de peinture nous disent aussi sur l'incendie, ce qui est en train de se produire dans cette famille
à ce
moment-là.
Oui, parce que l'étoile, en fait, nous donne plein d'informations, parce qu'elle nous parle de sujets qu'on connaît tous bien, la fuite en Égypte, donc le massacre des innocents. En fait, il y a énormément de ressources qui viennent de la peinture, les tableaux permettent de comprendre un petit peu ce que vit le personnage, en fait. Qu'est-ce qu'il traverse ? Il y a aussi toute l'histoire autour de Sodome et Gomorre, de la femme de Lot. J'ai beaucoup utilisé des ressources qui sont dans les textes bibliques, que je trouve des images d'une très grande puissance, et qui sont des images qui, je trouve, peuvent aussi nous servir à regarder ce qui nous arrive en ce moment, c'est-à-dire cette catastrophe climatique, cette catastrophe au ralenti. Si on lit l'Apocalypse, si on lit certains épisodes de l'Ancien Testament, finalement, c'est aussi une manière de lire ce qui nous arrive, peut-être comme une répétition, ou en tout cas se dire quelque chose a déjà été traversé de l'ordre de la destruction du monde. Qu'est-ce que ça nous permet, nous, d'en dire? Comment ça nous permet de nous réapproprier le langage et le langage de la poésie pour affronter cette réalité? Parce que dans le livre, ce changement climatique, il est là, en fait. C'est ça, la dette. C'est ça, cet incendie auquel on ne comprend rien. C'est ça, ce lac qui dévore tout ce qui s'en approche. Il y a une puissance des éléments qui sont aussi des éléments créateurs parce que ils mettent les personnages dans une situation inédite et les forcent, finalement, à se replacer dans ce qu'ils sont, dans leur histoire, dans leur rapport symbolique aux autres, au monde. Donc, les ressources des tableaux, elles ont été là très fortes. Il y a des vrais faux tableaux dans le livre. Il y a aussi des tableaux qui sont devenus des scènes du livre, en fait, aussi. Il y a des tableaux qui sont cachés dans le texte, parce que ce sont des tableaux que j'ai vus, qui m'ont inspiré et qui sont devenus des scènes du livre.
Et d'ailleurs, ce peintre est imaginaire, mais en réalité, il existe. C'est-à-dire qu'il est à la fois, lui aussi, dans la réalité.
D'une autre charnage.
Oui, d'une autre charnage. Et dans le rêve, en réalité, puisque vous êtes en fait un peintre. Alors que, si j'ai bien compris, il ne l'est pas vraiment. Ou en tout cas, on ne sait pas.
Si, d'une autre charnage. Alors, dans le livre, c'est un peintre du XVIIe siècle. Mais c'est vrai que c'est un peintre fictif. Bon, mais je lui ai attribué des œuvres que j'ai un petit peu retouchées, mais des œuvres qui existent vraiment, qu'on peut voir dans des musées, dans des églises. Bon, il y a toutes sortes de jeux, de pistes dans le texte. Il y a un tableau qu'on peut vraiment reconnaître, c'est le dernier du livre. Judith présentant la tête d'Holoferne aux habitants de Béthunie, qui est au musée des Beaux-Arts de Caen, qui est un très très beau tableau.
De toute façon, le thème de Judith et Holoferne a tellement été représenté, tellement présent dans la peinture, qu'on se l'imagine très bien, même sans l'associer à un tableau précis.
Sauf que là, quand même, ce thème-là, souvent on voit Judith décollant la tête d'Holoferne. J'en ai pas vu beaucoup qui soit la présentation. Ça, c'est beaucoup plus rare. Et ce tableau au Musée des Beaux-Arts de Caen, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, un flamand, je suis désolée, je l'ai mangé. C'est un tableau étonnant. D'abord, c'est un format panoramique, ce qui est quand même assez, je trouve, assez rare. Et c'est un tableau assez fascinant. En tout cas, il m'a tellement fascinée que je l'ai attribué à Claude Dunod-Charnage et qu'il est le dernier tableau qui apparaît dans ce roman.
Parmi tous ces tableaux, celui qui peut-être, moi, m'a le plus fasciné, c'est justement ce qu'on peut pas voir, c'est-à-dire la vision du lac. En réalité, le lac, c'est vraiment l'inconnu, la surface sur laquelle tout se reflète et qui ne donne pas son essence, en fait. Donc, on ne peut pas savoir. La nature, c'est vraiment un vide qu'on construit en l'entourant, en réalité.
Alors, le lac, vraiment, s'est révélé dans l'écriture. Et plus j'avançais dans le texte, et plus je voyais ce lac se métamorphoser. En fait, dans chaque scène, ce lac est différent. Il est associé à des registres lexicaux différents, donc il lève des images qui ne sont pas les mêmes. Et ça, je ne l'avais pas imaginé. Mais c'est vrai que ce lac, c'est le point le plus aveugle du livre. C'est le point le plus mystérieux. C'est le lieu de la disparition. Oui, ça pourrait être une forme de trou noir. En tout cas, c'est un lieu qui a un magnétisme terrible, qui attire, qui fait peur, qui transforme, qui dévore, qui cache. Il a toutes sortes de pouvoirs. Parce que aussi, dans ce livre, je crois aussi que l'incendie et le lac sont comme deux personnages. Ils agissent.
Oui, tout à fait. Ils agissent d'autant plus que le lac a un nom. L'incendie n'en a pas, mais le lac, c'est le lac de Messia. C'est-à-dire, c'est le lac messianique, celui qui, en même temps, a la parole,
oui,
mais qui ne dit rien.
Mais en même temps, dès qu'on arrive dans la maison, parce que Carole, par exemple, au début, il explique que c'est elle le langage. C'est elle qui lui permet de parler. Et dès lors qu'ils sont dans la maison, ils n'arrivent plus à se parler. Cette maison, elle neutralise le langage. Mais c'est vrai que ce lac, oui, il y a quelque chose qui se dit là de très important, mais qui se dit peut-être plutôt à travers les métamorphoses dans l'écriture de cet espace qui ne cesse de changer et qui finalement, à un moment donné, était le point pour moi le plus fascinant dans l'écriture. C'est qu'à chaque fois, je le redécouvrais et j'en découvrais de nouvelles possibilités. Donc c'est un clavier incroyable dans le livre, ce lac de Messia et la maison à côté et tout ce pourtour où on cherche désespérément une révélation, c'est-à-dire un corps.
Oui, une désespération, voilà. Mais aussi, il y a cette désespérance, peut-être, du sens qui ne vient jamais. On ne sait pas comment l'incendie s'est produit. On ne sait pas, à la fin, justement, ce que le lac peut révéler. On ne sait pas ce que Jonas a à dire. On ne sait pas où l'esprit, en tout cas, où la mère emporte son fils en mourant. En fait, il y a une espèce d'énigme qui reste jusqu'au bout et qui restera, mais du coup, qui touche au mythe.
Il y a une énigme complètement, alors qu'à la fois déjouée par le fait qu'il y a des pistes, que les tableaux sont des éléments d'élucidation, mais c'est aussi une énigme parce qu'il y a plein de questions qui restent pour nous sans réponse. La mort, c'est une question sans réponse. L'origine du monde, comment deux cellules qui se rencontrent vont former un embryon, toutes sortes de choses sont tellement mystérieuses. Et la question, moi, qui m'inquiète et qui me hante et qui peut-être m'a fait écrire ce livre, comment on va se sortir de cette catastrophe qui est en cours? Et toutes ces choses, il n'y a aucune réponse. Et le livre, il est dans l'inquiétude de ces questions ouvertes. Et en même temps, il y a des formes de réponses parce qu'il y a des indices, il y a des traces, il y a toutes sortes de moyens aussi, finalement, en revenant dans les pages, en reprenant le texte. Si on veut bien revenir en arrière, on peut se rendre compte qu'il y a des indices qui induisent certaines réponses possibles, si le lecteur les partage.
Merci beaucoup Nathalie Desmoulins de nous avoir rendu visite. La brûlante cartographie d'un feu est parue aux éditions de Noël. Cet entretien littéraire était réalisé par Laure-Hélène Planchet avec Guillaume Fischeux à la technique aujourd'hui et Aurélie Marsay à la préparation. Nous nous retrouverons samedi prochain, mais d'ici là vous pouvez réécouter cette émission et tous les épisodes de l'entretien littéraire sur l'appli de Radio France ou le site de France Culture.